La Halte,
le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
Un podcast de Quartier Libre.
Et donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de dire on va pas attendre 2025 que tous les travaux soient terminés et nous permettent en fait nous de démarrer nos travaux. Pour pouvoir ouvrir un cinéma, on a demandé à la ville, dans l'appel à projet, de pouvoir récupérer les clés rapidement et pouvoir porter quelque chose en fait entre le cinéma éphémère qu'on avait monté et le projet futur pour venir tester, expérimenter le modèle d'un cinéma créatif, un cinéma dans lequel on peut fabriquer des films, avant de figer les plans, avant de décider de comment on allait le faire, les matériaux utilisés, les espaces et le modèle, quoi. Vraiment exact. Et parce qu'on croit encore que le cinéma, ça fait partie des choses et des formats qui peuvent changer une vie, en fait.
Un lieu de vie, vraiment, avant tout. Et c'est souvent ça qu'on se disait au tout début. C'était, on se dit, on fait un cinéma, mais en fait, d'abord, c'est un endroit où on a envie que les gens se sentent bien, accueillis et chez eux. Donc, voilà, ça, c'est important, ça, le chez-soi, de se sentir comme à la maison, comme si on était en pantoufle. C'est important.
C'est un peu comme l'approche... global, je pense qu'on a autour du lieu, c'est se sentir usager. En fait, concevoir le projet comme des usagers.
Je pense qu'il peut... On est un peu en recherche de ça, je pense, C'est une expérience amplifiée, enfin, c'est pas juste venir voir un film. En fait, c'est vraiment trouver un espace où il y a une forme pour s'impliquer pour tout le monde.
Agent Crawford pour la Halte. Est-ce que vous me recevez ? Ici l'agent Crawford. Tiens, la Halte. J'ai envie de vous dire. Halte là.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de La Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Et cette fois-ci, direction l'Occitanie. Nous sommes à Toulouse et plus précisément dans le quartier de Bonnefoy. Et je vous présente la Forêt électrique. Sans l'ombre d'un doute, la rencontre avec ce lieu et son équipe a été un véritable coup de cœur pour moi. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Pour vous parler de la Forêt électrique, il faut impérativement que je vous parle de ses fondateurs, Agnès et Michael. Et parce que tout commence par un rêve, la Forêt électrique, c'est l'histoire d'un rêve commun de créer un cinéma indépendant, dans une friche, et pas seulement un cinéma où l'on voit des films, mais aussi un cinéma dans lequel on fabrique des films. Deux fondateurs qui, ensemble, ont décidé de traverser la France, puis l'Europe, pour découvrir des modèles de cinéma indépendants, innovants, différents et multiples. Vous pouvez imaginer mon bonheur lorsque j'ai entendu parler de ce cinéma indépendant situé dans une friche et qui, en plus, était l'œuvre de personnes ayant eu envie, eux aussi, de découvrir les initiatives françaises et plus largement européennes afin de créer un lieu qui leur ressemble. Alors, on laisse Agnès revenir sur ce périple plus qu'inspirant.
Bon, du coup, je m'appelle Agnès et j'habite à Toulouse et j'ai cofondé la Forêt électrique. Ce projet, en fait, la toute genèse, elle date d'il y a très longtemps, puisqu'on rêve de monter un cinéma avec Mika depuis plus d'une quinzaine d'années, je pense. On a ce rêve, en fait, de pouvoir mêler dans un lieu... un endroit où on montre des films et un endroit où on en fabrique. Et du coup, ça fait très longtemps qu'on rêve de porter un projet de cinéma dans lequel on puisse trouver tout ça. Du coup, pour monter ce lieu, on a décidé il y a presque une dizaine d'années de partir en fait sur les routes de France pour découvrir tout un tas de salles de cinéma et voir un peu comment ils mettaient en place au quotidien des nouvelles choses pour s'en inspirer en fait pour monter notre propre lieu. Donc on est parti sur les routes en 2014 tout un été, rencontrer des salles indépendantes. Et au retour de ce voyage, on avait découvert plein d'idées très chouettes. On s'est dit que ça serait bien d'en fait d'étendre le champ de notre exploration à l'Europe pour aller découvrir vraiment des systèmes innovants, des nouveaux lieux qui se montent par des générations d'exploitants qui ont envie aussi d'intégrer cette logique de fabrication dans les murs, d'impliquer les spectateurs autrement, de sortir de l'idée simplement de projeter des nouveautés, mais d'éditorialiser un peu plus la programmation. Donc on est reparti 6 mois en train visiter une vingtaine de pays et voir comme ça d'autres salles de cinéma qui se montaient. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est devenu très concret dans ce voyage, c'est qu'on a rencontré des gens qui ont pu nous raconter en fait eux-mêmes comment ils s'étaient lancés, nous parler de la mise en place concrète en fait de leur projet. Et du coup, on a rencontré des gens qui s'étaient vraiment lancés de zéro pour créer des nouveaux modèles de lieux. Et donc nous, c'est ça qui nous intéressait, c'était pas reprendre une salle, c'était pouvoir rêver en fait d'un lieu patrimonial type une friche qu'on allait réinvestir et réhabiliter.
Voyage qui donnera lieu quelques mois après à l'ouvrage Cinema Makers que je vous invite à vous procurer le plus rapidement possible. À leur retour, Toulouse s'est imposée comme l'emplacement parfait et c'est à ce moment-là que de longues recherches ont démarré. Ils ont exploré la ville de long en large à la recherche d'espaces délaissés. Ils ont aussi pris contact avec les services municipaux pour connaître les lieux vacants dans l'attente de la perle rare. Finalement, c'est en mai 2018 qu'Agnès et Mika ont développé la version 1 de la forêt électrique au cœur d'une vaste friche urbaine, les Halles de la Cartoucherie. Une version éphémère du projet, mais qui a permis à l'équipe de tester une première fois les usages et les besoins du public. Ils ont donc créé ce lieu éphémère avec l'aide de futurs spectateurs, en organisant des chantiers participatifs et collectifs inspirés de l'approche participative qu'ils ont découvert en Angleterre. Ce cinéma éphémère a donc pris fin au bout de 6 mois, en novembre 2018, pour nous proposer une version 2 encore plus étonnante.
On a décidé de s'installer à Toulouse, qui est une grande ville, pour pouvoir monter ce cinéma. Et on est parti rapidement à la recherche d'un lieu en friche. Donc on est parti en fait simplement visiter beaucoup de lieux. On se baladait dans les rues, à vélo, on essayait d'explorer, trouver les espaces un peu vides. On a aussi contacté la région, la ville à cette époque-là pour qu'ils nous conseillent en fait des espaces, s'il y avait des espaces vacants qui pouvaient correspondre au projet. Et la ville de Toulouse nous a mis en contact avec une ancienne friche qui était en cours de réhabilitation. On a contacté les porteurs de projet pour, de manière temporaire, imaginer en fait une salle de cinéma dans cette ancienne usine de cartouches. Et on a monté un cinéma éphémère pendant une année, en 2018, où on a organisé un peu plus de 150 projections. On était ouvert tous les jours. Mais il a fallu, pour monter ce cinéma, réhabiliter déjà cette halle, à minima en tout cas, pour pouvoir ouvrir. Installer Internet, installer une salle de cinéma avec des fauteuils fixés au sol, etc. Et cette expérience, ça nous a fait réaliser à quel point il y avait le besoin en fait, de ce nouveau genre de lieu. Et pour nous, l'envie de cette fois dans le projet qui allait suivre se posait de manière pérenne, pas voilà, réembrayer sur un projet transitoire. Donc on cherchait vraiment un lieu dans lequel s'installer. Mais on sait que dans les grandes villes, trouver du foncier, c'est compliqué.
Et comme on sait qu'il suffit d'une rencontre pour parfois réaliser son rêve, c'est ce qu'il s'est passé quand Geoffrey, jeune architecte, les contacte pour rejoindre un projet d'envergure qui regroupe logements participatifs, pôle d'économie sociale et solidaire et espace culturel. Projet qui remportera quelques mois plus tard le concours Dessine-moi Toulouse.
Et à ce moment-là, on a rencontré un architecte, qui est Geoffrey, qui répondait à un appel à projet sur un site très large d'à peu près 10 000 m² d'anciens ateliers municipaux de la ville, dans lequel encore un des espaces était vacant, une halle d'à peu près 1 000 m². Et il s'est dit que ça pourrait les intéresser, étant donné qu'ils cherchent à déployer un cinéma. Donc on a rejoint l'équipe à ce moment-là. Et puis on a remporté en fait l'appel à projet tous ensemble. Du coup, depuis, il s'est installé. En fait, il a installé ses bureaux dans nos murs, ce qui est un luxe parce qu'en fait, on peut penser au quotidien pendant plusieurs années le lieu et la manière dont on va en fait réhabiliter cet espace tous ensemble. Donc, c'est pas un simple architecte. Il connaît extrêmement bien notre projet. Il connaît extrêmement bien nos usages, notre fonctionnement. Et du coup, voilà, on a une relation qui est une relation de quotidien. Et c'est super parce qu'il le voit aussi évoluer avec nous. Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des usages qu'on découvre ensemble. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très hybride aussi dans l'équipe. Comme Mika vient aussi de la 3D, il a à cœur aussi de penser les espaces. Donc il y a vraiment un binôme qui s'est formé avec Geoffrey où, voilà, ils imaginent souvent les espaces ensemble et la manière dont on les fabrique vient infuser aussi à quoi ces espaces pourront devenir.
C'est dans le cadre de ce projet architectural que la forêt électrique trouvera sa place dans le quartier de Bonnefoy et au cœur d'anciens locaux municipaux, tout près de la gare.
Oui, tout à fait. Alors, on est dans le quartier de Bonnefoy, qui est un quartier qui est situé juste à côté de la gare de Toulouse. C'est un ancien quartier de maraîchers et de cheminots, comme on est voilà, collé aux voies ferrées. Donc, notre site, il borde le chemin de fer. On entend souvent les trains passer quand on sort de la halle. C'est un quartier qui est en mutation, qui se transforme beaucoup. Ces dernières années, une ligne de métro est prévue pour 2027, il me semble, qui passera à une centaine de mètres de notre lieu. Donc ça, c'est une vraie chance pour nous. Et c'est un quartier très mixte, avec une population hyper hétéroclite. Donc pour nous, c'était vraiment un ancien faubourg. C'est le quartier dont on rêvait, en fait, pour lancer ce cinéma.
Et je vous laisse avec Geoffrey, qui s'intéresse de près au réemploi et à ce qui me fascine depuis des années, offrir une seconde vie à des lieux délaissés.
Donc je suis Geoffrey Barraud, de Hors-Piste Architecture, donc architecte de formation ingénieur et architecte. Et alors moi, sur le projet des Herbes Folles, je suis architecte sur le projet définitif. Vraiment la deuxième phase qu'on appelle globale, ou sur le site, on va construire de l'habitat participatif. Vu qu'en fait, il faut imaginer que c'est un grand site de 8000 m² où on a un arbre et beaucoup de places de parking, mais il n'y a pas d'espace vert. Et le but du projet, quand on est arrivé en fait sur le site, c'était vraiment d'agrandir. Il y a un petit parc. Et au moment du concours en 2018-2019, la proposition, c'était d'ouvrir le parc au sud pour faire de l'habitat participatif, ranger toutes les places de parking en sous-sol et du coup pouvoir agrandir le parc, garder l'arbre existant. Donc voilà, c'est aussi un projet d'habitat collectif et de rénover deux bâtiments, donc le pôle d'économie sociale et solidaire, qui réunit 14 structures d'insertion de l'économie sociale et tout autour du réemploi, du recyclage, etc. Et le pôle culturel de la forêt électrique. Je suis sorti de l'école en 2017 et je me suis lancé dans la foulée sur initialement la thématique de l'hébergement d'urgence. Mais en fait, de manière plus générale, de l'occupation des bâtiments vides. On construit énormément, qu'il y a beaucoup de délaissés urbains, et dans tous les projets de immobilier, vu qu'on a beaucoup construit, il y a toujours des bâtiments qui, dans leur cheminement, dans leur histoire, vont avoir des périodes de vacances. Et vu que le monde de la construction est de plus en plus complexe, il y a forcément des phases de vacances qui sont de plus en plus longues. Et du coup, le projet architectural, pour moi, c'est une occasion, entre guillemets, la période de vacances, qui est une manière de révéler le potentiel souvent des bâtiments qui sont vides, que les promoteurs ou que le monde de la construction, en tout cas à l'heure actuelle, ne voit pas. Et donc du coup, c'était un peu un prétexte pour redonner une valeur d'usage à ces bâtiments vides et d'utiliser cette période pour révéler du coup tout ce potentiel dont je parlais, et du coup d'être plutôt sur une version de rénovation que de démolition et reconstruction. Donc là, on va être une empreinte beaucoup moins importante de reprendre possession de ce lieu et de le rénover. Donc clairement, la première étape, c'est déjà de rénover une grande halle au lieu de se dire on rase tout et on fait un bâtiment neuf, parce que d'un point de vue juridique et compagnie, c'est plus simple, sauf en fait c'est quand même débile quand on voit toutes les évolutions. Donc clairement, ici, on y est dedans. Après, c'est clair que le réemploi, il y a plein de difficultés, vu que forcément, le monde est de plus en plus complexe d'un point de vue juridique. Et donc, du coup, moi, je suis à l'entre-deux, à l'interface de l'usager, mais du coup aussi de la personne qui a toutes les responsabilités en partie avec la forêt électrique. Donc, du coup, de faire du réemploi. Tout à l'heure, je parlais des lampes, mais en fait, c'était un sujet qui nous a pris une semaine, juste pour faire valider le fait qu'on avait des lampes Emmaüs. Donc c'est clair que il y a l'image jolie du réemploi où on veut tout faire bien avec de la seconde main, mais on se confronte forcément à plein de sujets. Après, c'est vraiment dans l'air du temps, donc les choses évoluent et on n'est pas tout seul à se poser les questions, heureusement. Mais c'est clair que c'est ce qu'ils veulent faire dans la production de films, de faire tout par eux-mêmes de manière artisanale. Donc forcément, le côté bricolage, de savoir-faire un peu avec tout en mode MacGyver, mais ce qu'on voit à la campagne ou avec nos grands-parents ou n'importe où à la campagne, c'est exactement ce qu'ils faisaient, de détourner quelque chose pour en faire autre chose. Donc c'est un peu l'idée vraiment dans ce projet de détourner pour refaire. Et voilà, la question aussi importante sur la rénovation, comme le disaient Agnès et Mika, c'est eux qui ont vraiment mis la main à la pâte sur la rénovation, ou en tout cas sur l'embellissement de la halle dans cette première phase. Et du coup, ils en deviennent les meilleurs experts, même plus que moi, en fait. Donc du coup, moi, j'ai beau être là dans le site, d'être au quotidien avec eux, mais bon, à côté, j'ai mon métier aussi. Donc du coup, je suis pris aussi sur d'autres projets, donc c'est eux qui ont fait. Mais bon, du coup, il y a ce partage de connaissances, mais du coup, ils ont une meilleure connaissance que moi d'un point de vue presse technique du bâtiment, et c'est vraiment un regard complémentaire. Et pour éviter des erreurs environnementales aussi, c'est cette expertise-là du site pour en révéler son potentiel. Et du coup, clairement, c'est quelque chose qu'on a en connaissant le lieu et en rénovant et en rasant et en refaisant du neuf, en faisant table rase et de partir d'une page blanche. C'est là où on fait les plus grosses erreurs, que ce soit en usage, mais même d'un point de vue environnemental, où on ne va pas faire attention à beaucoup de choses et beaucoup d'étapes en termes de matériaux ou autres.
Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, Geoffrey fait partie intégrante du projet de la forêt électrique et dispose même d'un bureau avec l'équipe pour être au plus proche du chantier qui démarrera dans quelques mois. Parce que expérimenter, éprouver un lieu et fidéliser un public fait partie de la philosophie de la forêt électrique, l'équipe a décidé de prendre les clés le plus vite possible et décide d'ouvrir ses portes en octobre dernier. Et ils comptent bien continuer leurs activités même pendant la période des travaux. Si on doit donner un mot d'ordre pour ce bâtiment de préfiguration, mot d'ordre qui d'ailleurs sera aussi celui en vigueur une fois les travaux terminés, c'est modulable. Et pour mieux comprendre, je vous invite à vous plonger à l'intérieur de ce superbe lieu avec notre visite guidée sonore.
Alors, bah, racontez-nous, on vient d'arriver du côté de la forêt électrique. On est dans un grand espace avec d'autres bâtiments. Où est-ce qu'on se trouve ?
C'est le site des Herbes Folles, c'est les anciens ateliers municipaux de la ville de Toulouse qui ont été désaffectés en 2014. Enfin, les services se sont arrêtés en 2014 et depuis 2014 jusqu'à maintenant, il y a encore quelques services de la ville qui sont présents. On est en face de l'archéologie par exemple, et les anciens ateliers de menuiserie qu'on a juste en face sont occupés depuis 2019 par la forêt électrique.
Ouais, on va rentrer. Ouais. En tout cas, dès qu'on arrive, on peut le voir directement avec la pancarte et puis les peintures sur les murs qui font penser au logo.
Donc on a décidé, en fait, quand on a récupéré la halle, on avait un bâtiment qui héritait un peu des années 70, de ce passé semi-industriel mais semi-municipal. Et du coup, on a décidé, nous, quand on a récupéré le lieu, de repeindre toute la façade avec notre char, donc des couleurs pastel assez vives, pour pouvoir identifier le lieu depuis la rue dans cette première phase de préfiguration.
Désolée pour le vent, les auditeurs, ça fait un peu mal. On va rentrer, on n'entendra plus le vent.
Ouais.
Donc là, on rentre à l'intérieur, là où le public rentre habituellement.
Oui, c'est ça. En fait, on passe par un petit préau et on rentre directement dans la halle. Donc nous, on appelle ça la halle parce qu'en fait, quand on arrive dans le bâtiment, on découvre une halle qui fait un peu plus de 400 mètres carrés avec une forte hauteur sous plafond, dans lequel on trouve du coup notre espace de diffusion, la salle de cinéma, le café et aussi les espaces d'atelier.
Oui, c'est juste la première partie qui est accessible au public en soi, au quotidien. Donc la première partie de la halle, c'est un espace de cinéma. Et derrière, les deux tiers de la halle, c'est vraiment des espaces d'atelier où il y a les bureaux et l'espace de production de films qui, eux, en temps normal, ne sont pas ouverts au public. Mais dans cette première phase de préfiguration, pendant 2 ans, en termes d'ouverture, c'est vraiment la première partie qu'on va visiter, celle qui est accessible aux différents, aux voisins et à tout le monde. Voilà.
Eh bien, allons-y, rentrons. Donc, on arrive à l'intérieur de ce que vous appelez donc la halle. On voit sur le côté des schémas, en fait. Vous nous dites un petit peu ce que c'est ?
Ouais, en fait, quand on arrive, il y a un mur de présentation du projet pour que justement les gens, en fait, qui rentrent dans le premier espace, mais qui n'ont pas forcément accès, en fait, à tous les espaces de fabrication, puissent voir, en fait, quels sont les différents volumes de la halle. Du coup, il y a le premier espace qui est un espace, nous, qu'on appelle de salon. En fait, on trouve une bibliothèque, des canapés, des tables pour que les gens puissent venir s'installer. voilà, et prendre un livre, lire un magazine, boire un café. On a un espace de café, donc plus à proprement parler, où on peut manger un bout, boire un verre. Une salle de cinéma. Donc tous ces espaces qu'on décrit, en fait, on les a, comment dire, visualisés de manière distincte, mais en fait, c'est un même volume. Mais c'était pour expliquer un peu les différents usages. Donc le cinéma, c'est un cinéma avec, qui est complètement modulable, avec des fauteuils sur des roulettes. Et des chaises longues, des transats, pour pouvoir voir des films. Donc ça nous permet d'avoir à peu près 70 places pour faire une salle de cinéma dans cet espace qui est donc ponctuellement un café ou ponctuellement un espace réversible. Et le reste de la halle, c'est des espaces d'atelier. Donc on a représenté dans le dernier petit visuel avec un espace où on peut faire... de la construction de décors, faire des tournages, avoir vraiment des espaces d'atelier où on peut aussi tourner et qui sont juste à côté du dernier volume, qui est un volume de post-production. En gros, un espace où on vient terminer les films. C'est-à-dire qu'une fois que le film il est fabriqué, ben, en fait, on regarde les images et on affine le son, la colorimétrie, le montage pour venir livrer un film terminé, quoi.
Pour compléter, on peut regarder sur la partie du salon. Ce qui est intéressant, c'est les étagères, tous les livres qui sont visibles. C'est des livres que vous avez glanés, enfin qu'on a glanés tout au fil des années où ce n'était pas encore ouvert au public. Parce que sur le site des Herbes Folles, il y a différentes structures et associations dans le domaine du réemploi et du recyclage. Et donc là, c'est Recycle Livres qui récupère plein de livres de bibliothèque, qui les remettent un peu dans le circuit. Et il y a quelques livres qui sont censés passer au recyclage que vous avez sélectionnés. Et du coup, toute la bibliothèque, c'est une sélection de livres de seconde, de troisième main et de, voilà, sélectionnés par l'équipe.
C'est ça, pendant nos pauses déjeuner, après les pauses déjeuner, en fait, on retrouve sur site... un endroit où on peut aller récupérer ses livres et du coup les choisir, donc tous les midis.
Et ça, c'est les petites pépites qu'on a sélectionnées et gardées.
Et puis nettoyées, repliées.
Voilà, c'est ça, classées.
Finalement, c'est la petite sélection aux petits oignons faite par vos soins.
Ouais,
et donc après, le café, peut-être pour les auditeurs et auditrices qui auront envie de venir voir, quels sont un peu les horaires?
Alors, le café, en fait, on fonctionne même plus généralement. Le lieu, il est ouvert, il fonctionne par saison. Donc, nous, ce qu'on appelle des saisons, c'est des périodes de 2-3 mois à la rentrée, donc à l'automne, septembre, octobre et au printemps, mai, juin, début juillet, où en fait, on ouvre la halle parce que c'est les meilleures conditions climatiques. Il faut... Alors ça, on ne l'a peut-être pas précisé, mais en fait, la halle, c'est un grand volume qui est couvert, mais qui n'est pas chauffé ni climatisé. Et du coup, qui n'est pas... complètement isolé parce qu'on a des trappes de désenfumage. Donc on a décidé d'ouvrir que pendant ces saisons un peu intermédiaires climatiques. Donc on ouvre comme ça de manière événementielle et le café pendant ces saisons est ouvert du mercredi au dimanche toute la semaine, les après-midi. Donc ça nous permet, hors des événements de cinéma ou des rencontres qu'on organise, ben voilà, de pouvoir ouvrir l'espace aussi aux spectateurs, aux habitants du quartier, qui puissent venir un peu voir l'espace et avoir un temps hors des périodes d'événements pour nous rencontrer.
Oui, il est important de rappeler que c'est une phase de préfiguration avant un projet définitif de rénovation complète de la halle, où là, ça serait une ouverture beaucoup plus large. Mais dans le cadre de cette préfiguration, c'était aussi trouver l'équilibre entre une qualité d'accueil, que l'ambiance soit la plus agréable possible, tout en évitant de rentrer dans des coûts exorbitants pour avoir cette période de 2 ans pour tester le modèle de la forêt électrique, faire remonter aussi les envies d'évolution pour le projet définitif et répondre au mieux aussi aux envies de l'équipe.
C'est ça, si on... On reparlera peut-être après de la genèse, après la visite, mais si on explique peut-être juste ce principe rapidement de la préfiguration, on sait, en fait, tout le site dans lequel on se trouve va être en chantier dans quelques mois, avec plusieurs phases. Et nous, ce qui, quelque part, conditionne en fait le démarrage de nos futurs travaux, plutôt que d'attendre que tous ces travaux soient terminés pour qu'on puisse à notre tour réhabiliter cet espace, on a décidé de venir tester toutes nos futures activités, c'est-à-dire être un cinéma qui intègre de la création et de la fabrication de films dans ses murs, donc concrètement des résidences, accueillir des artistes, événementialiser un peu plus le fait de montrer des films sur grand écran, c'est-à-dire organiser des rencontres, des concerts, des choses autour, avoir une approche pluridisciplinaire. Et donc tout ça, on voulait le tester pour penser au mieux les futurs espaces. Donc voilà, c'est les espaces qu'on voit aujourd'hui. Qui est donc un lieu un peu, voilà, une première phase, un lieu encore un peu en chantier.
Et puis le bâtiment est plutôt un bâtiment qui date des années 60, donc qui était un peu dans son jus quand vous êtes arrivé. Et vous avez quand même réussi à en tout cas, repeindre et à essayer de moderniser avant la seconde phase de travaux, quoi.
Pour les auditeurs qui ne voient pas, il y a tout un sujet sur les lampes qui sont magnifiques, de seconde main que vous avez chiné à Emmaüs.
Mais qu'on voit dans d'autres lieux, hein. J'en ai vu dans d'autres lieux.
C'est vrai.
C'est les lampes industrielles un peu, mais...
Ça pose plein de questions. En fait, on a voulu, en effet, quand on a trouvé le lieu, il était dans son jus. En fait, il faut imaginer que la halle dans laquelle on se trouve, tous les murs étaient d'une couleur un peu beigeâtre. Il y avait plein de tiges métalliques qui pendaient au plafond pour tenir les anciennes machines de menuiserie. On avait de l'humidité sur certains murs, il y avait du salpêtre. Donc tout ça, en fait, on a essayé de se le réapproprier de manière assez simple et pragmatique, en se disant comment déjà un peu nettoyer tout cet espace, faire disparaître toute cette disparité de forme. Du coup, on a repeint en blanc, on a piqué les murs pour redécouvrir de la briquette toulousaine. Et on a essayé de nettoyer quelque part un peu déjà cet espace avant de venir nous y apposer des couleurs et un peu... notre identité, quoi.
Et on avance pour voir s'approcher des sièges qui ont l'air très confortables et du grand écran. Et on va passer dire bonjour, parce qu'on va passer devant quelqu'un. Bonjour, tu peux te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Diane, je suis en service ici, en service civique, à la Foire électrique.
Et t'es multitâche comme à peu près tout le monde ici.
Et voilà, je suis multitâche en fonction de la saison, je fais de la cuisine, autant de la... que de la régie, de la médiation, l'accueil du café, des travaux, voilà. J'ai fait de la chaux, j'ai fait un mur en chaux, voilà.
La classe. Et t'es sur le bar qui donne sur l'espace projection.
Ouais, c'est ça, notre super espace modulable de la forêt.
C'est marrant, peut-être une petite anecdote sur ce bar, parce que quand on a voulu penser cet espace, en fait, on est arrivé sur site et du coup, il y a une petite maison qui est juste collée à notre halle, qui avait une ancienne pergola dans le jardin. Et du coup, Mickaël et Fabien de l'équipe ont été récupérés avant l'hiver, avant que le bois se pourrisse, tout le bois de cette ancienne pergola qu'on trouvait un peu au sol. Et on l'a entreposé en se disant qu'à un moment donné, on en ferait quelque chose. Et du coup, quand on a conçu l'espace du bar, Mika a redécouvert toutes ces grandes planches, ces grandes poutres. Et du coup, les a poncées, redécoupées. Et c'est avec ça, en fait, qu'est construit la structure du bar. C'est avec l'ancienne pergola du jardin des voisins.
Bah ça va, elle est plutôt belle quand même. Plutôt beau, le bois. Et on disait quelque chose tout à l'heure qui donne envie de venir aussi. C'est ce truc où on peut boire une bière sur ces transats et prendre une petite pizza sur les soirées d'événements.
Ouais, c'est ça. C'est quand même un truc assez incroyable. C'est qu'on peut aller chercher sa pinte, s'asseoir dans un transat et regarder un film en mangeant sa pizza, quoi.
C'est un peu plus original que juste de prendre des pop-corn, quoi.
Voilà, c'est ça.
Super, ben on va continuer la visite puisqu'on va arriver derrière, donc là où il y a plutôt la partie un peu fabrique, ouais. Vous allez nous montrer ça.
Du coup, l'espace, il est scindé en fait dans ce grand volume de halle qu'on décrivait. En fait, on passe un rideau noir, et du coup là on arrive dans l'espace d'atelier. Donc l'espace d'atelier, c'est un peu comme tout ce projet, hein. Ce sont des espaces entièrement modulables. Donc là on est face à des grands établis blancs, parce qu'on est en train de préparer une exposition des portes ouvertes de nos ateliers de ce week-end. Donc voilà, on voit en fait un grand volume de halles sur lequel on trouve des établis avec pas mal de machines.
Tu veux que j'en dise un mot? Non, ce qui est intéressant, c'est que tous les établis sont mis sur roulette pour que vraiment, comme tu le disais, tout soit modulable. Et donc on a la première partie ici qu'on voit sur tout ce qui est usinage du bois, découpe, ponçage, avec, on le voit pas, mais sur la droite, il y avait une réflexion quand même sur la partie, les équipements de protection, l'évier, donc toutes les parties un peu communes à tous les ateliers. Et derrière, on va avoir tout ce qui va être peinture, soudure, j'en oublie.
Couture, voilà. Fabrication de costumes. En fait, c'est un espace qui nous permet à la fois de venir fabriquer des éléments qui sont visibles dans des films, qui nous permet aussi de venir tester des choses qui nécessitent des grands espaces. Donc pour faire un film, ça peut être un test avec des comédiens, ouais, par exemple, pour tester du jeu. Ça peut être un test d'une optique. Vous voyez ce qu'on met, quand on teste en fait une caméra, tester une image, du coup on vient tester des lumières pour essayer d'imaginer en fait quel va être le choix technique qui va être réalisé pour un film. Donc on a besoin de grands espaces pour venir tester. Là devant nous, il y a un fond vert.
C'est ce que j'allais dire. Là on sait qu'on est bien dans un lieu de cinéma parce qu'il y a un fond vert quand même.
Il y a un fond vert, donc c'est un fond vert qu'on a utilisé il y a quelques mois pour faire un premier clip dans ce lieu. Et du coup, Mika, qui a réalisé ce clip, en fait, a conçu la marionnette qu'on voit là aussi, du coup, entièrement avec les machines et les outils de la halle, du coup, avec des imprimantes 3D, de la découpe de bois. Et du coup, cette marionnette est complètement animée. Et donc, le fond vert nous permet, avec cette lumière naturelle, de venir à poser des éléments dans des environnements ensuite virtuels ou 3D.
Ici, on est juste en face d'un volume qu'on a voulu garder en fait le plus libre possible parce que c'est là où aussi on a une grande porte latérale mais pour voir entrer tout ce qui est équipement pour des décors ou autre. Voiture, et c'est voiture, véhicule. Donc c'est vraiment, on a quand même une belle hauteur sous plafond de 6 mètres, une largeur pareil beaucoup plus importante. Donc c'était quand même le but d'avoir quelque chose le moins figé possible, le plus modulable pour pouvoir faire évoluer les ateliers. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tout cet espace, on peut l'ouvrir ponctuellement à tout le public. C'était quelque chose qu'on avait prévu depuis le début. Des espaces qui sont vraiment professionnels, vu que c'est de l'artisanat, industrie, on est un peu entre les deux. Mais c'est une partie qu'on peut aussi, entre guillemets, ouvrir comme un musée et pour pouvoir accueillir le public dans tout le volume de la halle.
C'est ce qu'on fait ce samedi, en fait, on organise des portes ouvertes de ces ateliers pour que justement les gens qui viennent plus pour nos événements, des séances, découvrir des films, puissent d'un coup voir ce qui se passe derrière ce rideau noir, ce qu'ils aperçoivent parfois quand ils viennent au café, ils nous entendent bricoler, peut pouvoir montrer en fait ce qu'on est en train de fabriquer ou ce qu'on va fabriquer.
Super, et voilà, on va donc continuer un peu plus loin avec justement les différentes tables où il se passe plein de choses manuelles. Et à côté, il y a un autre espace.
Oui, c'est ça. Alors, juste à côté de nos ateliers, au fond de la halle, on a une petite pièce qui est encore en chantier, mais qui est quasiment terminée. C'est un espace, en fait, de post-production. Donc, en fait, concrètement, ça ressemble à une mini-salle de projection de cinéma. Avec tout ce qu'il faut pour venir terminer un film. Donc là, on rentre dans cet espace. Donc on voit encore toute la construction puisque l'espace n'est pas complètement terminé. Il nous manque la moquette en fait à poser au sol. Contre les murs, on doit installer un tissu acoustique. Pour le son de cet espace. Et du coup, par contre, au plafond, on voit que c'est presque terminé puisqu'on a installé les dalles, du coup, aussi acoustiques pour avoir un son et une image qui est optimale. On est dans une pièce qui est complètement au noir et dans laquelle on aura un son optimal pour venir terminer la fabrication d'un film.
Et alors, derrière, il y a encore d'autres espaces qui, pour l'instant, ne sont pas utilisés. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce que ça va devenir ?
Alors en fait, on vient de récupérer ces extensions et ces extensions, ça deviendra le futur café. Du coup, aujourd'hui, c'est un espace qui nous sert pour notamment les imprimantes 3D qui sont dans une petite pièce qu'on peut voir à droite. Du coup, qui nous permettent d'avoir un espace un peu dédié aux maquettes, un espace moins, entre guillemets, sale, où il y a moins de poussière, où il y a moins de sciures, ou du coup, qui nous permettent d'avoir, de faire de la peinture ou tout ce qui concerne de la finition. Et après, c'est un espace qui nous permet aussi d'entreposer beaucoup ces extensions aujourd'hui, tous les matériaux de réemploi qu'on collecte pour venir fabriquer des films. Donc là, on peut voir sur la gauche, on a entreposé beaucoup de bois qu'on a récupéré. Des grandes planches de MDF, d'OSB, qu'on entrepose pour des tournages, pour de la fabrication. Donc, c'est des choses qu'on collecte et avec lesquelles, après, on vient retravailler pour fabriquer.
En tout cas, il y a vraiment du réemploi. C'est pas racheter des choses nouvelles pour créer des décors, c'est réutiliser faire du recyclage, finalement.
Oui, d'où l'importance d'avoir un petit espace de rangement, de stockage, de tri. Qu'on n'avait pas forcément imaginé en plus au tout début, d'où l'importance d'avoir cette phase de préfiguration. Et Agnès disait qu'ici c'est le futur bar parce qu'en fait à terme, du coup d'ici quelques années, le bâtiment qui est juste en face, qu'on voit de l'autre côté, va être démoli. Il va y avoir un nouveau bâtiment qui va être construit. Et en fait, on va se retrouver ici, de ce côté, sur l'espace d'une future placette qui va réunir l'habitat participatif, un pôle d'économie sociale et solidaire. Et ici, on va être à l'intersection en fait, de ces trois pôles, avec ici le pôle culturel de la forêt électrique, réunis autour d'ateliers. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans le projet définitif des Herbes Folles, il y a toute cette notion du réemploi, du recyclage et de l'artisanat et de la place en pleine centre-ville de Toulouse qui s'étend jusqu'ici derrière la gare. Donc on est dans une phase de transition assez large.
On a envie d'avoir un grand espace d'accueil et aujourd'hui, ce qu'on vient aussi tester avec toute la partie événementielle, donc de notre salle de cinéma, le premier espace qu'on a visité, c'est se poser la question de est-ce qu'on va faire des boîtes noires pour inviter les gens à voir des films, ou est-ce qu'il n'y a pas un espace intermédiaire à penser avec ce café, où on pourrait imaginer une salle qui jouxte le café mais qui puisse s'ouvrir sur le café et venir plutôt étendre le café que des boîtes qu'on isole. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup là. On a ouvert il y a quelques semaines, c'est tout nouveau. Et on se rend compte de la richesse en fait d'avoir des espaces où tout peut être bougé. Donc on a essayé de penser un maximum de choses sur roulette pour pouvoir s'adapter en fait aux propositions et à tout ce qu'on a envie d'accueillir dans les murs, quoi.
Vu que c'est des ouvertures dans des périodes où il fait bon et qu'on a des portes latérales, on utilise énormément la rue qui est juste à côté. Et dans le projet définitif, c'est une petite ruelle piétonne. Et en fait, de se dire si on fait des boîtes dans la grande boîte, on va peut-être perdre cette connexion-là. Mais du coup, ça donne plein d'envie de peut-être réfléchir le projet différemment comme on ne se l'est pas encore autorisé. Donc c'est marrant d'avoir des surprises comme ça.
C'est vrai. Ouais. Les spectateurs et les spectatrices, pour le moment, investissent énormément l'espace de la rue quand ils arrivent. On a disposé du coup des tables, des transats devant l'entrée dans cette petite rue. On a réussi à avoir un accord sur site pour que pas de voiture ne passe au moment en fait, de nos projections. Donc on a vraiment comme un espace piéton avec des petits bancs et ça transforme complètement notre espace. Nous-mêmes, on l'avait pas du tout supposé. Non. C'est quand on a ouvert où on s'est rendu compte que l'espace était investi et que les gens le rendaient piéton par leur présence. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a petit à petit un peu poussé.
Oui, et que les gens restent des fois 5 minutes de plus sur les bancs, à discuter juste avant que le film démarre. Donc, c'est une modularité et quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé, d'où l'importance d'observer cette première phase de préfiguration.
C'est marrant, tout à l'heure on en discutait avec Mika qui nous racontait ça, que le lieu, il disait en fait le fait qu'on l'ait repeint, qu'on l'ait éprouvé pendant plusieurs mois, on le connaît super bien. Et du coup, le fait de très bien connaître cet espace, ça donne des idées nouvelles de qu'est-ce qu'on peut y faire dedans, mais surtout comment on peut le transformer pour être au plus près à la fois de l'existant et en amenant des usages. Exactement.
Et après, vous avez réhabilité la partie aussi bureau.
Ah oui, on peut faire un petit tour dans nos bureaux. Donc les bureaux, c'est le premier espace, en fait, je pense, qu'on a réinvesti pour pouvoir travailler. Parce que quand on est arrivé, il faut imaginer que toute cette halle était vide. On n'avait rien, on n'avait pas de mobilier. On était une petite équipe, on était 5.
En fait, c'était plein d'anciennes archives, juste avant qu'on arrive.
Oui,
quand même, on peut
le préciser. Oui, quand on est arrivé, le lieu, en fait, il était rempli de linéaires de 3 km d'archives. Donc quand on est arrivé, ils avaient vidé le lieu. Et on s'est retrouvés avec un lieu, comme tu le disais, dans son jeu. Et du coup, on s'est dit, OK, il faut...
Avec quelques fuites en toiture.
Évidemment, sinon c'est pas
drôle. Voilà, donc on s'est dit qu'il fallait réaménager un espace pour pouvoir travailler. Et du coup, on a pensé... Nous, on appelle ça les extensions, en fait, parce qu'il faut imaginer qu'il y a le grand volume de la halle et que du volume de la halle, on passe une jolie porte très, très grande. Et en fait, on arrive sur un espace où le toit est plus bas. Et du coup, quand on a découvert ce premier espace, il y a 2 ans, tout était peint en vert, pomme, avec pas du tout de lumière. Et du coup, on s'est dit que c'était l'espace qui conviendrait bien pour travailler, mais qu'il fallait refaire une partie de la toiture pour que ce soit plus lumineux, tout repeindre et cloisonner un peu l'espace avec du bois, des cloisons en OSB, pour venir distinguer l'équipe qui serait en charge des projets créatifs, qu'ils aient un espace un peu plus isolé de l'équipe, du reste de l'équipe au quotidien. Donc quand on rentre dans les bureaux, on a une petite cuisine. En fait, on a une grande table en bois où on mange tous les midis. À droite, il y a nos bureaux qui ont été entièrement construits à partir de réemploi, debout de la toiture en fait, que tu vois là. Du coup, Mika a eu l'idée en fait, de récupérer des tiges en métal et de les assembler pour faire nos futurs bureaux. Avec Fabien, ils ont construit des mini-meubles de bibliothèque sur roulette, hein, où il y a toutes les références, nos livres de références, voilà, pour les pauses. Et sur la gauche, on trouve encore une sorte de mini-salon, un peu comme à l'entrée du lieu, l'espace qui est accessible au public. C'est un espace pour nous de projection, où on peut regarder des films en interne et faire la programmation.
Et puis bon, la quantité de clés qui montre qu'il n'y a pas qu'un seul espace, il y en a beaucoup.
Exactement, c'est vrai, hein, quand on voit la façade, nous, on a beaucoup de portes aussi. Il y a beaucoup d'espace, comme tu décrivais tout à l'heure, il y a beaucoup de grandes portes dans l'espace, de vieilles portes industrielles qui n'étaient pas trop mises en valeur quand on est arrivé. Elles étaient soit vertes, soit une sorte de gris, mais un peu fade. Du coup, on a décidé de tout repeindre en blanc. Et ça permet d'avoir un grand volume épuré.
Création.
Ouais, exactement.
Super, je crois qu'on a fait, le tour.
On a fait le tour, ouais.
Merci. Pour en savoir davantage sur le projet de la forêt électrique, Agnès nous parle de leurs envies et de la programmation déjà bien dessinée qui se déroulera par saison en attendant les travaux d'isolation thermique.
Alors, on programme tout un tas de films principalement indépendants. Je dirais que c'est ce qui quand même nous caractérise, même si on a la vocation d'exposer tout un tas de formes et de contenus. On a envie de croiser le cinéma avec plein de disciplines, montrer aussi des choses qui viennent plus de la musique, des arts graphiques, du jeu vidéo. Dans le cinéma, on a envie de montrer beaucoup de formats qu'on voit peut-être moins par ailleurs, de l'animation, du cinéma de genre, des formats courts. On ne s'interdit pas de montrer ce qu'on qualifie de blockbuster si c'est un film qui nous intéresse. En fait, on ne fait pas de distinction. Voilà, entre un cinéma d'auteur et un cinéma plus populaire, même si voilà, on cherche à représenter peut-être ce qu'on voit moins par ailleurs. Et on a quand même un souci d'aller vers de la diffusion de plein de contenus qu'on ne voit pas toujours en salle. D'essayer, par exemple, de montrer plus de vidéoclips ou des choses qu'on peut voir sur Internet qui ont moins leur place sur les écrans de cinéma. En fait, on fonctionne avec des saisons événementielles. On thématise en fait chaque ouverture. Donc, on ouvre à la rentrée septembre-octobre et au printemps en mai-juin-juillet. On thématise autour de l'identité du lieu. Donc, la première saison s'appelait Étincelle. C'était autour de qu'est-ce qui nous met en mouvement, pourquoi on se lance dans des processus créatifs, parler des premières fois. On ouvre le café en semaine. On organise des événements le week-end, des projections principalement, mais aussi des concerts, des rencontres. Et le reste de l'année, hors de ces périodes d'ouverture événementielle, on travaille dans les ateliers et on travaille à fabriquer des films, en fait. Donc ça, on le fait de plusieurs façons aussi. On a une partie de l'équipe en interne qui fabrique des films. Donc là, on travaille sur un premier film de science-fiction. Et ensuite, ces espaces, on a vocation aussi à les ouvrir à d'autres résidents et à les louer aussi, pour pouvoir faire vivre vraiment le lieu autour de la création. Si on se projette dans le futur, on a vocation à ouvrir tous les jours, donc ça c'est quelque chose qui distinguera le projet actuel, à ce que les espaces, du coup, qui auront un fonctionnement quotidien, puissent peut-être être un peu plus, restent modulables, mais avoir un usage plus spécifique. Aujourd'hui, on a des espaces très ouverts, avec des usages extrêmement larges. À terme, par exemple, le café pourrait être voilà, un espace de café qui n'aura pas constamment à être une salle de cinéma agencée en café. Donc, enlever les tables, mettre des fauteuils de cinéma, remettre les tables, renlever les fauteuils de cinéma. Pour filer cette idée du quotidien, les espaces seront pensés pour fonctionner aussi de manière thermique au quotidien. Donc, on a hâte que la halle et les volumes puissent être isolés, qu'on puisse imaginer voilà, de pouvoir vivre en fait toute l'année et faire fonctionner à l'année en fait l'espace. Je pense que c'est surtout ça qui va distinguer le fonctionnement actuel, qui a un grand volume avec des usages très larges, et le fonctionnement futur qui sera un fonctionnement plus quotidien. Et quelque chose qui est important peut-être aussi à dire dans la philosophie, c'est qu'on a envie de pouvoir parler de cinéma sous l'angle de sa fabrication, venir expliquer en fait tout ce que sous-tend, en fait, quand on parle de cinéma, on imagine souvent des stars, des paillettes, du tapis rouge. Nous, c'est quelque chose qui est assez loin, en fait, de notre philosophie. On aimerait que les gens se représentent le cinéma comme quelque chose d'accessible, comme l'art qui mélange, en fait, tous les arts, et comme quelque chose d'enthousiasmant à fabriquer. Pas quelque chose qui est réservé à une poignée, mais quelque chose voilà, qui nécessite beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, mais qui est quelque chose qui leur est accessible, en fait. Et qui est la somme d'étapes et de disciplines, en fait. Oui, l'idée, c'est de faire venir d'autres arts, parce que pour nous, c'est important aujourd'hui, à l'ère où on peut voir des films en ligne, sur les plateformes, de se dire, en fait, que si on montre du cinéma, il est contextualisé dans, finalement, une approche plus large qui nous enthousiasme. C'est-à-dire que même nous, on n'est pas des gens qui ne voyons que des films. On écoute de la musique, on joue à des jeux vidéo, on adore les livres. Voilà, on a une approche plus large, en fait, de la culture. Et c'est souvent par ça aussi qu'on a envie de voir des films. Donc c'est, je pense, cette porte d'entrée qu'on a envie de retranscrire pour ne pas s'adresser seulement à un public de gens déjà conquis par le cinéma ou déjà cinéphiles, mais se dire, voilà, que des gens qui s'intéressent à d'autres choses dans la vie, dans la société, pourraient avoir envie de découvrir des films. Et simplement parce que voilà, ça permet de connecter des œuvres qui nous touchent. On a organisé là, pendant cette première saison, une soirée qui était super, qui s'appelait Une chambre à soi, où on a invité 3 artistes féminines, une musicienne, une poétesse et une réalisatrice, à présenter leur travail. Du coup, la soirée a démarré par un concert, les gens ont bu un verre. Après, il y avait une performance de poésie, et ensuite, c'était une projection d'un film. Et ces 3 artistes ont pu après dialoguer, parler de leur processus. Pour nous, ça ressemble beaucoup, je pense, à la manière idéale d'opérer cet espace, c'est-à-dire qu'il y a un film au cœur de notre soirée, mais il est augmenté de plein d'autres arts qui nous touchent, parce qu'on aime aller à des concerts, parce qu'on aime la littérature, parce qu'on aime en fait tout ça. Et ça nous permet voilà, d'inviter un dialogue qui n'est pas cloisonné dans une discipline, mais qui est plus peut-être thématisé ou dans une approche plus globale voilà, qui nous parle, quoi. Avec le volume qu'on a ici et le nombre de mètres carrés, on aurait pu imaginer de multiplier le nombre de fauteuils. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu envie de faire, parce qu'en fait, on a envie d'inviter dans les murs beaucoup d'activités. Donc des espaces d'atelier, des espaces de projection, mais aussi, pourquoi pas, une librairie, une pizzeria. Des espaces qui viennent augmenter, en fait, l'idée de la projection d'un cinéma, justement, traditionnel. Donc pour nous, aussi, le modèle de la salle, je pense qu'il a muté tel qu'on le rêve. Peut-être qu'on voilà, on se projette dans un espace qui va avoir plein de fonctions autour de l'objet film et du cinéma. Et du coup, forcément, la crise qu'on a traversée depuis le Covid dans les salles de cinéma, elle nous touche un peu moins, parce qu'on a moins besoin de faire de volume d'entrée. On est moins sur cette idée d'une seule discipline où il nous faut beaucoup de spectateurs sur un seul film, tous les jours, maximiser le nombre de séances. Nous, on imagine un système de séances quotidiennes, mais un peu plus événementielles. On imagine 1 à 2 écrans, ce qui se fait peu aujourd'hui. Quand on pense de salles de cinéma, ce qui s'est beaucoup fait ces dernières décennies, c'est au contraire de dire qu'il faut des cinémas où on multiplie le nombre d'écrans, on fait de la multiprogrammation pour attirer plus de public. Et c'est là où on trouve l'équilibre économique. Ce qui est vrai, mais dans une époque où les gens ont tendance à voir des films ailleurs, pour nous, c'est important, au contraire, de concentrer le nombre de projections, de faire des choix assez radicaux, dans le sens de, on vient à la racine, en fait, de pourquoi on a envie de montrer tel ou tel film, affirmer des choix de programmation pour que les gens aient confiance et aient envie de voir ces films-là, et utiliser le reste des espaces pour venir amplifier. C'est-à-dire que, par exemple, avoir des artistes qui font des films dans nos murs, pour nous, c'est quelque chose de hyper important pour donner envie à des gens aussi de venir voir des films. Les deux ne sont pas forcément intuitivement connectés, mais c'est l'idée qu'on va aller dans un lieu où les gens sont en mouvement. En fait, il y a des gens qui sont en train de créer, de fabriquer. Ça nous permet même concrètement de communiquer, je ne sais pas, sur nos réseaux sociaux, sur l'idée qu'il se passe des choses, en fait. Des choses se fabriquent dans notre lieu. Et pas juste sur des séances. Voilà, on met des films à l'affiche, il y a des séances.
Lieu de résidence où l'on fabrique des films, c'est ce que l'équipe de la Forêt électrique veut défendre, en étant eux aussi résidents permanents de leur propre lieu. Pour connaître aussi le travail que nous propose l'équipe lorsqu'ils ne sont pas du côté de la diffusion, on écoute Agnès nous en dire quelques mots.
Oui, oui, nous, on a complètement vocation à diffuser et à proposer la diffusion, en fait, de ce qu'on fabrique. Alors, c'est sûr, d'abord, dans nos murs, puisque c'est toute la spécificité du projet, mais on a évidemment envie que ça circule. Donc, voilà, si je rentre un petit peu dans les détails, nous, on parle beaucoup de... On aime beaucoup le format du court-métrage. On ne rêve pas forcément de format long. Mais par contre, pour diffuser des œuvres, le format de la séance est souvent pensé autour de contenus qui sont les longs-métrages. Donc nous, on rêve beaucoup de pouvoir faire des programmes et fabriquer plusieurs courts-métrages qui se font écho pour arriver à fabriquer des formats de séance qu'on pourrait du coup vendre. On aimerait beaucoup aussi aller nous les présenter, imaginer des systèmes de tournée où on présente en fait ce qu'on fabrique dans d'autres lieux. Parce que c'est pas parce qu'on a des espaces de création intégrés qu'on a vocation à les diffuser que dans l'espace où on les fabrique, évidemment. Évidemment aussi les diffuser sur Internet. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous hyper complémentaire. Avoir une salle de cinéma, c'est pouvoir voilà, projeter des films sur grand écran, créer des moments collectifs où on voit des films. On a, nous, personnellement aussi, une pratique où on voit des films en ligne et on trouve que c'est important que nos films puissent être disponibles pour que les gens puissent les découvrir chez eux. Donc c'est imaginer en fait, tout un circuit de diffusion dans des lieux partenaires, donc d'autres cinémas indépendants qu'on a pu visiter, dans notre espace évidemment, dans des espaces peut-être aussi un peu insolites si on imagine des systèmes de tournée, et sur Internet. L'espace, on l'a récupéré en fait il y a un peu moins de 2 ans. Du coup, les premiers mois, on s'est vraiment concentré sur l'idée d'installer nos bureaux, de réhabiliter l'espace pour pouvoir avoir un espace de travail. On a pu, au printemps, travailler sur le premier projet créatif dans les murs. On a travaillé sur un clip d'un artiste qui s'appelle Gatien, ça s'appelait Magie. Donc Mika, qui est vraiment le directeur artistique sur les projets créatifs et qui réalise, avait envie en fait de faire une pause un peu dans ses travaux et de venir déjà commencer à tester ses espaces autour de la création d'une marionnette. On venait de s'équiper d'imprimantes 3D, donc toute l'idée du projet et le focus disons qu'on a autour de la création, c'est de pouvoir imbriquer des techniques artisanales de fabrication, type une construction par exemple là, d'une marionnette, avec des techniques virtuelles de la 3D. Donc voilà, c'est toute la spécificité de la création. Donc comme on s'était équipé de nouvelles machines, il avait envie voilà, de les tester, de pouvoir construire une marionnette qui soit animée sur un environnement 3D. Enfin, un environnement, pardon. On a filmé en réel, mais oui. Voilà. Voilà, donc ça c'est le premier projet sur lequel on a travaillé, ce vidéoclip. Et là, on travaille sur le premier projet de fiction. On est en train de finir d'installer les ateliers. Donc on a de l'équipement pour pouvoir faire de la construction, des costumes, des décors. Et donc là, on travaille sur un projet qui s'appelle La Nuit du Monde. C'est un court-métrage de science-fiction qui va être tourné en partie en extérieur, en partie dans la halle, et sur lequel on a besoin de beaucoup de fabrication. On doit construire notamment un vaisseau de plus de 4 mètres, on doit construire une créature en silicone, et voilà, tout un tas de choses qui nécessitent en fait des grands volumes. L'idée, c'est de pouvoir avoir en fait notre studio de création en fait qui fonctionne avec des gens dans l'équipe en fait qui viennent fabriquer et qui viennent incarner en fait ce processus de création, qui utilisent les espaces, du coup qui peuvent les rendre toujours plus pertinents, savoir quel est l'équipement qui est nécessaire aussi pour des projets tiers qu'on accueillera en résidence. Voilà, pour nous, c'est comme d'avoir une équipe en résidence comme permanente, c'est quelque chose qui nous permet aussi de répondre mieux aux besoins des résidents extérieurs qu'on va accueillir. C'est un peu comme l'approche globale, je pense, qu'on a autour du lieu, c'est se sentir usager. En fait, concevoir le projet comme des usagers. C'est-à-dire que la partie création, on a envie d'avoir des outils, des machines, des espaces qui sont fonctionnels et qui répondent déjà à des envies et des besoins qu'on avait. De la même manière que l'espace de cinéma, quand on programme, on a une approche vraiment d'usager, où on se dit quels sont les films qu'on aimerait découvrir, qu'on aimerait présenter, qu'on a plaisir en fait à montrer. Donc je pense que c'est vraiment toute cette philosophie qui drive le projet, quoi.
On a pu avoir un avant-goût de ce projet vraiment novateur et incroyable que nous propose la Forêt électrique avec la clôture de saison Étincelle lors de notre passage fin octobre. Une bière à la main et une pizza maison de l'autre, nous assistions à une rencontre entre 3 réalisateurs sur des domaines et des univers très divers. Animation, documentaire et fiction. Projection suivie d'une discussion autour de leurs films.
Fango! Bon voilà, beaucoup de talent autour de cette table, je suis impressionné. Et en voyant ça, en voyant cette diversité de contenu, se poser la question de, un peu bête, vraiment, de comment chacun dans votre style et chacun dans notre style, vous avez commencé, quelle était l'étincelle finalement de votre parcours quoi. Bon, je drop ça là comme ça, soyez libre de répondre qui veut.
J'ai plus qu'une chose à vous dire, courez-y à la prochaine saison et vivement 2025 pour voir ce lieu dans sa forme la plus aboutie. Merci d'avoir écouté ce 9e épisode de La Halte. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de La Forêt Électrique pour son accueil et sa disponibilité. Merci à Gatien pour la musique. Et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode à La Haltropisme à Montpellier. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook, Instagram et TikTok en cliquant Quartier Libre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite.
La Halte,
au cœur de nos 13 régions de France.